Je souhaite que le Seigneur soit présent au milieu de nous. Parce que si je ne fais que m'adresser à vos cerveaux, ce ne seront que des mots et il ne restera rien après la réunion. Et je vais vous dire des choses qui peut-être vont un peu vous étonner. J'ai besoin que le Seigneur me remplisse du Saint-Esprit. Dimanche dernier, M. Go a parlé sur la prière et j'étais en pleine communion avec lui parce qu'il y a plus de 15 jours que je réfléchis beaucoup à ce sujet de la prière et que je dis, Seigneur, montre-moi ce que c'est que prier. Enseigne-moi à prier. Eh oui, il y a 53 ans ou 2 ans, 3 ans que je suis converti. J'en suis là. Seigneur, enseigne-moi à prier. Parce que je ne sais pas si je prie bien, si j'ai bien compris ce que c'est que la prière. Et le Seigneur m'a expliqué beaucoup de choses. Et je voudrais que nous les regardions ensemble ce soir. On va faire une première lecture dans Matthieu chapitre 6. Verset 7. En priant, c'est Jésus qui parle, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Et il y a le Notre Père que vous connaissez ou que peut-être vous ne connaissez pas. Deuxième lecture dans Luc, chapitre 18. Verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Vous vous souvenez ce que j'ai lu tout à l'heure? Ne soyez pas comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. Ici, Jésus dit qu'il veut montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse !» Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Que veut dire Jésus lorsqu'il dit « Ne soyez pas comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Votre Père Céleste sait, avant même que vous ouvriez la bouche, ce que vous allez lui demander. Et que veut dire Jésus quand il dit « Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ?» Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Et il a raconté toute la parabole de cette femme qui se retrouvait devant le tribunal pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Est-ce que dans la première phrase, Jésus veut encourager les chrétiens à raccourcir leur prière? Est-ce que dans la deuxième, il veut encourager les chrétiens à rallonger les réunions de prière? il est évident que nous avons besoin d'apprendre à prier, et que nous avons besoin que le Saint-Esprit nous saisisse pour savoir comment prier. Il est évident que nous avons besoin d'être protégés de la confusion et du doute, parce que Jésus explique bien dans cette parabole que disposition de la foi égale efficacité dans la prière, puisqu'il met en relation le fait que lorsqu'il reviendra, il se demande si les hommes auront encore la foi, et il se demande si les hommes prieront encore. Du reste, Jésus, en posant la question « Trouvera-t-il la foi sur la terre ?», semble prophétiser qu'à la fin des temps, il n'y aura plus de foi en lui, plus de prière pour lui. Et c'est même un signe annonciateur du retour du Seigneur Jésus, le fait que les hommes cesseront de prier ou se sépareront de la prière. Nous le savons pour l'avoir vécu nous-mêmes, vous l'avez tous vécu. Quand nous nous approchons de Dieu, nous retrouvons l'envie de prier. Et quand nous nous éloignons de Dieu, nous perdons l'envie de prier. Ou je pourrais le dire à l'envers, quand nous perdons l'envie de prier, c'est parce que nous nous sommes éloignés de Dieu. Ce qui est vrai pour nous est vrai pour les églises. Il y a des églises qui cessent de prier et on peut leur dire, c'est presque mathématique, demain, vous n'existerez plus comme représentant du Seigneur Jésus. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Un signe annonciateur du retour du Seigneur Jésus, c'est le fait de perdre l'amour de la prière. Il y a 130 ans environ, 1880 exactement, il existait un serviteur de Dieu qui s'appelait Spurgeon, qui était un grand homme de Dieu. Écoutez ce qu'il a écrit à cette époque-là. On croirait que ça a été écrit ce matin. « Avec la fausseté doctrinale vient un déclin naturel de la vie spirituelle qu'on voit dans un goût pour les amusements douteux et la désertion des réunions de prière. Les églises sont-elles en bonne santé lorsqu'elles n'ont plus de réunions de prière ou qu'une réunion de prière squelettique par semaine ? En fait, beaucoup voudraient marier l'église et le théâtre, les jeux et la prière, la danse et les cultes. » 130 ans. Hein ? Quand la foi ancienne disparaît et que l'enthousiasme pour l'évangile s'éteint, il n'y a pas à s'étonner que les gens cherchent d'autres délices. Je crois que je vous l'avais déjà lu une fois, ce passage-là. La prière annonce ce que nous sommes à l'égard de Dieu et notre façon de prier démontre ce que nous pensons exactement de Dieu. Je suis sûr que chaque chrétien s'est interrogé souvent, plus d'une fois, sur sa façon de prier. Et il vous est certainement arrivé de nombreuses fois d'avoir l'impression que vous aviez pour mission de chercher des mots qui devaient convaincre Dieu, de chercher des arguments pour décider Dieu. Quand nous prions, on pourrait nous taper sur l'épaule, quelqu'un pourrait nous taper sur l'épaule et nous dire, mon pauvre ami, vous n'avez pas de succès, Dieu ne vous écoute pas. Vous ne parvenez pas à le convaincre. Mon pauvre ami, vous n'avez pas les arguments nécessaires parce que Dieu n'a pas l'air de fléchir à vos arguments. À la fin de cette réunion, on nous tapera sur l'épaule et on nous dira, cher ami, ou mon cher ami, que vous êtes avantagé d'avoir un Dieu si puissant et si miséricordieux. J'espère, frères et sœurs, qu'à la fin de cette réunion, nous aurons complètement modifié, changé et compris certaines choses et que l'on pourra nous taper sur l'épaule en disant que vous êtes heureux d'avoir un Dieu si miséricordieux. Jésus a dit, « Ne ressemblez pas aux païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Dieu sait d'avance ce que nous allons lui demander. Vous le croyez, cela, je pense. Il ne découvre pas le but de notre prière au fur et à mesure que nous prions. Je crois qu'il pourrait même dire demain ce que nous allons lui demander dans la prière. Dieu ne fait pas dépendre l'exaucement de notre prière des mots que nous employons, ni du nombre de mots que nous formulons. En fait, dans ce premier passage de Matthieu, Jésus explique que l'exaucement de la prière dépend de l'état de notre cœur. Écoutez bien ça, frères et sœurs. L'exaucement de la prière ne dépend pas des flots des mots. Il ne dépend pas du nombre de mots. Ne soyez pas comme les païens qui croient cela. L'exaucement de la prière dépend de l'état de notre cœur. Et Jésus explique comment vous devez prier. Écoutez bien. Notre Père qui est aux cieux, sanctification, règne de Dieu, volonté de Dieu, pardon des offenses, victoire dans les tentations. L'état de notre cœur. Jésus explique qu'il y a des fois où il est impossible à Dieu de nous exaucer. Si par exemple nous sommes, vous et moi, en querelle, et que je vienne ou que vous veniez me dire « Frère, je vous demande pardon » et que je refuse votre amitié ou votre pardon, je peux prier pendant des siècles, si je ne vous pardonne pas, Dieu ne m'écoutera pas. Vous le savez ça, frères et sœurs. Il y a donc des obstacles à la prière qui sont là, sur notre chemin, et nous pouvons bien multiplier tous les mots que nous voulons, notre prière n'aboutira pas parce qu'il y a un obstacle. Et dans Matthieu chapitre 6, Jésus explique que pour qu'il n'y ait pas d'obstacle, nous devons demander à notre Père la sanctification. Que ton nom soit sanctifié. Nous devons nous occuper du règne de Dieu. Que ton règne vienne. Nous devons nous occuper de la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite. C'est un mot, ça, c'est une phrase. Que ta volonté soit faite. Mais ça veut dire tant de choses. Et ça sous-entend tant de choses. Nous devons nous pardonner les uns les autres. Le pardon des offenses. Pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons. Ça ne veut pas dire, tu vois, nous on pardonne faisant tant. Non, c'est Dieu se calque sur nous. Si nous ne pardonnons pas les autres, il ne nous pardonnera pas non plus. Le pardon des offenses, la victoire dans les tentations, surmonter les tentations avec victoire. S'il y a dans ma vie des obstacles à la prière, ce n'est pas la peine que je prie. Matthieu, chapitre 6. Et ce n'est pas le flot de paroles qui va fléchir Dieu. Je vais juste vous lire deux ou trois versets, mais il y en a beaucoup dans la Bible. Des versets qui montrent qu'il y a des obstacles à la prière. Beaucoup. Il y a par exemple celui-ci, que je vous demande de ne pas le chercher, pour bien vous concentrer, mais je vous le lis, il est dans Ésaïe chapitre 1 et au verset 15. « Quand vous étendez vos mains, dit Dieu, je détourne les yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas, vos mains sont pleines de sang. » Il s'adresse à son peuple, qui était dans un état spirituel lamentable, et Dieu leur dit, vous pouvez étendre vos mains, vous pouvez multiplier vos prières, je n'écoute pas. Cela, je pense que vous saviez cela. Toujours dans Ésaïe, je vous lis le verset 2 du chapitre 59, où il est dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ça c'est le verset 1, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et qui l'empêchent de vous écouter. Monsieur Gau a parlé dimanche du passage d'Ézéchiel 8, où il y a dans le temple 25 hommes qu'on regarde à travers un trou dans la muraille, et qui tournent le dos à l'autel et qui sont en train de faire des insanités. Vous vous souvenez de ce passage? Et Ézéchiel les regarde, il écoute ce qu'ils disent, Et Dieu dit, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point miséricorde. Quand ils crieront à voix haute à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Ça, c'est Dieu qui le dit. Donc, j'en ai dit assez ici pour que vous soyez d'accord avec moi. Il y a bien d'autres versets de toute façon qui montrent que dans la vie spirituelle, il y a des obstacles à la prière. Et si nous avons l'intention de demander quelque chose à Dieu, mieux vaut enlever les obstacles, parce que si l'obstacle reste, nous pouvons bien multiplier toutes les paroles que nous voudrons, nous ne fléchirons pas Dieu. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Ça, c'est la deuxième phrase de Jésus dans Luc 18. Bien sûr, il n'y a aucune contradiction avec la première. Ici, Dieu veut expliquer qu'il ne compte pas nos mots et qu'il ne chronomètre pas nos prières, mais qu'il s'intéresse aux sentiments que nous avons. Est-ce que je désire vraiment ce que je suis en train de lui demander ? Dieu veut voir cela. Est-ce que j'ai vraiment le besoin d'exaucement ou est-ce que ma vie ne changera rien s'il se trouve qu'il ne m'exauce pas? Mon désir d'exaucement est-il si tenace qu'il résiste au temps, qu'il résiste à tous les problèmes? Ma prière est-elle vraiment en accord avec celle des autres? Vous savez, Jésus a dit un jour, si deux ou trois s'accordent, vous connaissez la suite. Est-ce que ça veut dire que le Seigneur est vraiment influencé par une donnée mathématique? Trois, il est bouleversé? Non. Le Seigneur est influencé par l'état de notre cœur. Et si lorsque vous priez pour un problème personnel, moi je me dis, heureusement que je n'ai pas ce problème et qu'il se débrouille, je peux toujours prier derrière pour moi. Dieu veut voir si je dis, oui Seigneur, je n'ai pas ce problème, moi, merci, je n'ai pas ce problème, mais bénis mon frère, bénis ma sœur. Et si je le dis de tout mon cœur, Dieu regarde cela. Alors que je suis en possession, écoutez bien, alors que je suis en possession d'une promesse divine, il y a une partie adverse. Notre veuve avait une partie adverse. Et nous avons une partie adverse. Une partie adverse qui est tenace, qui nous accuse jour et nuit devant Dieu. Retenez bien l'expression, jour et nuit. Une partie adverse qui ne cesse jamais. Nous avons un adversaire plein de haine. Il n'est content que quand il nous voit dans le malheur. On l'appelle l'accusateur, on l'appelle le destructeur. Et il y a entre Dieu et notre prière tous les problèmes posés par ce destructeur. Notre adversaire est opposé à la prière. Il ne veut pas que nous ayons de réunions de prière. Il ne veut pas que nous soyons en prière. Ben vous le savez bien, frères et sœurs. Lorsque vous voulez vous mettre en prière, en général, vous devez vous battre contre vous-même parce qu'il y a 1000 pensées qui traversent votre esprit. C'est vrai? Il faut se battre. Et puis, vous avez remarqué que quand vous tenez bon, au bout de quelques minutes, la victoire est remportée et maintenant vous pouvez prier. C'est pas vrai? Notre adversaire est opposé à la prière. Il ne veut pas. Rien ne le gêne, sauf la prière. Et c'est nuit et jour que devant Dieu, il nous accuse. Si vous dites à Dieu, Seigneur, guéris-moi, lui, il va dire, je suis sûr que si tu l'as guéri, elle va en profiter ou ils vont en profiter pour faire telle chose. Ils ne te diront même pas merci. Je suis sûr que si tu les bénis, voilà ce qu'il va arriver. Il est l'accusateur des frères jour et nuit. Dans Éphésiens chapitre 6, vous connaissez ce passage, où il est dit au verset 12 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre toutes sortes de puissances qui sont là dans les lieux célestes. Je vous le lis. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Et j'aime beaucoup le verset 18, qui est à rapprocher du verset 12. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans les lieux célestes, entre Dieu et nous, un adversaire qui s'oppose à notre bénédiction. Il s'oppose à ce qu'une personne vienne dans la salle. Il s'oppose à ce qu'elle comprenne l'Évangile. Il s'oppose à ce que nous croyons au Seigneur Jésus. Il s'oppose à ce que nous recevions quelque chose du Seigneur Jésus. Il nous fait penser à toutes sortes de choses, et des fois des choses troublantes. Vous voudriez être spirituel, être saint, et ça traverse votre esprit. Vous dites, mais à quoi je suis en train de penser alors que je suis en prière? Seigneur, pardon, vous revenez, et l'adversaire est toujours présent pour essayer de nous démolir. Pourquoi Jésus dit, faites en tout temps, et pourquoi Jésus dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Eh bien, une des raisons, c'est parce que c'est jour et nuit qu'il y a l'adversaire à l'action, jour et nuit, et qu'il ne se repose jamais. Tout ce que je viens de vous dire va maintenant s'éclaircir, j'espère, et se mettre bien en place dans nos cœurs si nous réalisons réellement ce que veut dire la parole de Dieu lorsqu'elle emploie l'expression « faire justice ». Au sujet de notre veuve, il est écrit plusieurs fois l'expression « faire justice ». La veuve, elle disait au juge « fais-moi justice ». Et le juge, il s'est dit « je vais lui faire justice ». Et Jésus a dit « et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ?» Cette veuve n'avait pas d'influence personnelle, elle n'avait pas d'amis pour l'aider, elle n'avait pas de moyens financiers, elle n'avait pas d'arguments sociaux pour remporter la décision du tribunal. Elle avait un adversaire tenace et inique, méchant, rusé. Elle avait un juge inique. Mais elle avait le droit pour elle. Elle avait la loi pour elle. Et il lui arrivait à cette femme, quand elle était chez elle, de se dire « quel dossier !» Il ne me comprend pas, il ne m'écoute pas, ils sont haineux, ils répètent toujours la même chose. Heureusement que j'ai la loi pour moi !» C'était son plaisir. Elle avait la loi pour moi. Le mot « loi » me gêne un peu ici. On va le changer et on va remplacer par le mot « promesse ». Et peut-être que vous dites, comme je suis malheureux, comme j'ai des problèmes, dans quel état je suis, personne ne m'aide, pas d'amis, personne qui ne veut influencer les événements pour mon avantage. Et Satan qui est toujours là contre moi, et les esprits mauvais qui empêchent ma prière et qui essayent de détruire mes relations avec Dieu. Et vous dites, heureusement que j'ai une promesse pour moi. J'espère que vous dites ça. En tout cas, toute la prière va résider là-dessus. Heureusement que j'ai une prière, une promesse pour moi. Cette femme disait « fais-moi justice ». Et Jésus a dit « et Dieu ne fera-t-il pas justice ?» Cela signifie que, je vais employer une expression qui est bien mauvaise, mais cette femme réclamait ce qui était son dû. Elle était toute petite, elle était peut-être âgée, elle n'avait pas d'arguments, son portefeuille était vide, mais c'était son dû. Il y avait un article de loi qui lui disait qu'elle devait gagner. Et peut-être que vous avez un problème ce soir qui n'est pas solutionnable, vous ne savez pas comment vous en sortir. Si vous avez une promesse de Dieu, mes frères et sœurs, si Dieu vous a fait une promesse, vous pouvez dire ça, c'est mon dû. Je n'ai peut-être rien d'autre, mais le Dieu puissant et vrai m'a fait une promesse. Je n'ai que ça, mais j'ai une promesse. Et elle s'appuyait sur la promesse. Tout à l'heure, j'ai dit que s'il y avait promesse divine, il y avait aussi partie adverse. Maintenant, je voudrais retourner la phrase et vous dire, mes frères et sœurs, s'il y a partie adverse, il y a promesse divine. Vous me saisissez ? Ou je recommence tout ? S'il y a partie adverse, et il y a partie adverse, il y a promesse divine. Il y a un Dieu qui fait des promesses. Et quand nous nous approchons de Dieu pour demander sa grâce, nous n'avons pas à l'argumenter. Lui n'écoute pas le nombre de mots, il n'a pas son chronomètre à la main pour regarder la longueur de la prière. Il regarde nos sentiments. Y a-t-il un obstacle entre lui et nous ou pas? Il regarde si nous voulons vraiment la bénédiction et nous demandons à Dieu, non pas qu'il veuille bien faire quelque chose en faveur de cela, puisque Dieu a déjà dit qu'il voulait, il a fait la promesse. Mais Dieu est de notre côté, Dieu est pour nous, frères et sœurs. Et ça doit changer notre façon de prier. Bien sûr qu'en nous disant « Seigneur, guéris-moi », par exemple, nous disons « Seigneur, guéris-moi », il y a une promesse ou il n'y a pas une promesse? Alors commençons par la promesse. Que dit la promesse? Par exemple, il est écrit « Priez les uns pour les autres et vous serez guéris ». Est-ce que j'ai besoin de convaincre Dieu de la suite dans cette affaire? S'il n'a pas dit ça, on peut déchirer la page, vous savez, frère et sœur. Mais si Dieu a dit ça, c'est une promesse. Il a dit « Priez les uns pour les autres et vous serez guéris ». Et s'il a fait cette promesse et que je me mette à prier pour vous, je n'apprends pas à Dieu que vous êtes malade. Je n'apprends pas à Dieu qu'il faudrait que vous soyez guéri. Mais je lutte, Dieu étant de mon côté. Il y a un adversaire entre lui et moi. Un adversaire qui est heureux que nous soyons malades. Un adversaire qui voudrait que nous soyons découragés. Il y a un adversaire qui ne veut pas que nous recevions quelque chose de la part de Dieu. Vous vous souvenez que dans Job, Dieu avait dû fixer des limites pour dire jusqu'où Job pouvait être malade, mais pas plus loin. Donc si je prie, Seigneur, je te prie maintenant pour que tu guérisses tel frère et sœur, il faut que dans mon esprit, ce ne soit pas pour persuader Dieu. Dieu, il est de mon côté, il est avec moi. Il faut que ma prière commence ainsi. Seigneur, tu as dit, priez les uns pour les autres, merci. Il n'y a pas assez de merci dans notre cœur, frères et sœurs. Il n'y a pas assez de merci. Et il n'y en a peut-être pas assez parce qu'on n'a peut-être pas bien compris la promesse de Dieu. Si demain le facteur vous apportait une lettre, je vais dire une énormité, ça n'a rien à voir. Je ne sais même pas pourquoi je dis une telle bêtise. Enfin, j'ai commencé, je vais continuer. Vous apportez une lettre sur laquelle on vous promet un chèque extraordinaire, une personnalité de la ville. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sauter de joie. Et vous allez le croire. Si Dieu vous fait une promesse, si vous lisez une promesse de Dieu dans la Bible, c'est la promesse que Dieu a faite qui a de la valeur. Qui a de la valeur. Seulement, il y a nuit et jour, jour et nuit, un adversaire qui nous accuse devant Dieu. Donc, nuit et jour, nous maintenons cette pensée. Nuit et jour, nous combattons contre cet adversaire. Nuit et jour, nous sommes là. Ça ne veut pas dire que nuit et jour, nous sommes à genoux. Ce n'est pas ce que Jésus a voulu dire. Nous allons au travail, nous avons nos occupations, nous avons des moments de détente, etc. Nous avons bien droit à tout cela. Mais nuit et jour, notre cœur veut recevoir cette bénédiction, comme une maman qui penserait sans cesse à son enfant malade et qui, en faisant toutes sortes de choses dans son ménage, elle revient toujours à cette pensée. Elle veut que son enfant soit guéri. Eh bien, si nous avons compris la promesse de Dieu, quand nous prions Dieu, nous commençons par le remercier pour ses promesses. Frères et sœurs, entendez-moi bien, c'est un point extrêmement important. Remercions Dieu pour nos prières, pour ses promesses. Remercions-le dans nos prières. Remercions-le pour les prophéties. Remercions-le pour tout ce qu'il nous a prophétisé dans la Bible, pour ses instructions, pour ses avertissements, pour les phrases qui sont dans la Bible. Disons merci à Dieu, mais pas intellectuellement, faisons un effort sans cesse pour dire « Oh Dieu, toi le Dieu suprême, tu as dit cela, tu as fait cette promesse, priez les uns pour les autres. » Et il y en a des promesses, vous savez, il y en a des promesses. J'en pense à une autre où il est dit « Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. » Est-ce qu'il y a derrière Jésus l'intention de ne jamais faire ça? Puisqu'il le dit, c'est qu'il a l'intention de le faire. Et si je prie le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson, Dieu est de mon côté, il se range de mon côté, il est de mon avis. Pourquoi faut-il que je prie? Parce qu'il y a un adversaire qui, lui, ne veut pas. Et alors, ma prière, c'est pas « Seigneur, tu sais, je vais t'apprendre quelque chose, il faudrait envoyer des serviteurs de Dieu. » Ma prière, c'est « Seigneur, merci de cette promesse. Merci. Alors, Seigneur, maintenant je prie pour que tu exécutes cette promesse, tu envoies des serviteurs de Dieu dans la moisson. Mais ma pensée intérieure, ce n'est pas que je cherche à persuader Dieu, il est avec moi, il est de mon côté. Ma prière intérieure, c'est que je prie pour que les obstacles que l'adversaire a mis soient enlevés et que Dieu, enfin, puisse se glorifier. Qu'il voit dans ma façon de parler, qu'il voit que je veux vraiment cette bénédiction. Parce que vous savez bien que quelquefois on demande des choses à Dieu, mais si Dieu nous mettait en face une glace, on dirait « Pardon de l'avoir demandé, Seigneur, je ne le pensais pas. » Vrai ou faux? Donc Dieu regarde nos sentiments lorsque nous prions et il juge nos sentiments. Conclusion. S'il faut commencer toujours nos prières et les poursuivre et toujours remercier le Seigneur, nous réjouir de ce qu'il nous a promis, je l'invente ou c'est écrit dans la parole de Dieu? Philippiens chapitre 4, verset 6. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Si vous réfléchissez bien à cette phrase, elle est très curieuse. Faites connaître vos besoins à Dieu par des supplications avec des actions de grâce. Raccourcissons-la encore. Des supplications avec action de grâce. Vous me suivez, frères et sœurs? Des supplications à Dieu avec des actions de grâce. C'est la Bible qui le dit. Donc, on est loin de chercher des mots pour persuader Dieu, pour le convaincre. On lui dit, Seigneur, je te supplie de guérir ma sœur. Je te supplie de guérir ce frère. Mais on est loin de penser, je t'apprends cela, et j'espère que tu vas m'écouter. C'est pas ça. C'est merci d'avoir fait la promesse. Merci d'être de mon côté. Merci de ta puissance. Merci de ce que ça ne te pose aucun problème. Merci de ce que tu n'as rien à faire. Il a même payé pour que ça se fasse. Il a même payé pour que ça se fasse. Et il a même payé cher. Frères et sœurs, si vous arrêtez de penser à ce que je viens de vous dire à la fin de la réunion, vous allez tout reperdre. Pour assimiler cela, revenez-y, pensez-y, demandez à Dieu qu'il le fasse descendre dans votre âme. Priez Dieu, dites « Seigneur, j'ai compris » parce que par moment vous allez le saisir, puis ça va repartir, vous le ressaisirez, ça repartira. Accrochez-vous à cette vérité. La vérité, c'est que nous sommes forts quand il y a les promesses de Dieu. Accrochons-nous aux promesses de Dieu. Ce n'est pas la première fois que je vous parle sur ce sujet-là. Je me rappelle avoir déjà parlé de cela. Mais il est important que l'Église ne devienne pas comme les païens et remultiplie les phrases. Ce n'est pas cela. On peut multiplier les réunions de prière, mais pas les phrases. On multiplie nos rapprochements de Dieu, notre communion avec Dieu. On demande à Dieu qu'il nous remplisse et puis on lui expose les besoins, non pas pour qu'il les découvre, mais pour que l'adversaire, celui qui nuit et jour nous accuse, eh bien nuit et jour, nous présentons les besoins au Seigneur. C'est une lutte. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Seigneur Jésus, c'est vrai que plusieurs fois, nous tous ici, nous sommes interrogés sur notre prière. Nous avons dit, mais pourquoi? Pourquoi Dieu ne répond-il pas? Pourquoi Dieu ne fait-il pas cela? Et puis, nous n'avons pas pensé que notre prière pouvait rencontrer des obstacles. Les obstacles qui viennent de notre propre cœur ou les obstacles qui viennent de notre adversaire. Seigneur, en ce qui concerne les obstacles de notre propre cœur, nous te demandons pardon. Et nous voudrions pouvoir rentrer dans ce Notre Père qui est aux cieux d'une façon sincère. Te parler de sanctification, te parler de triomphe dans les tentations, te parler de pardon des offenses, te parler de ta volonté, de ton règne. Que notre cœur soit pur devant toi. Seigneur, en ce qui concerne mes propres obstacles entre toi et moi, pardon, Seigneur. Mais en ce qui concerne les obstacles mis par l'adversaire, donne-nous de l'énergie, donne-nous de la volonté, donne-nous de la persévérance. Alors là, c'est nuit et jour que nous voulons les bousculer, c'est nuit et jour que nous voulons penser que la solution existe et que Dieu est vivant et que les promesses de Dieu sont oui et amen. Et c'est nuit et jour que nous voulons, lorsque nous pensons à un problème, commencer par dire merci Seigneur, parce que tu en as la solution. Et si tu nous as donné une promesse, nous ne voulons pas traiter cette promesse à la légère. C'est vrai Seigneur que nous pourrions tous nous humilier ici d'avoir pris tes promesses à la légère. Nous pouvons tous nous humilier, dire pardonne-nous. Nous n'avons pas été comme Marie qui repassait les phrases qu'elle avait entendues. Nous avons souvent été légers, indifférents, oublieux. Seigneur, pardonne-nous. Mais nous voulons passer tes promesses, les repasser et être capables de te glorifier, de te dire merci. Oui, les supplications avec action de grâce. Voilà ce que nous voulons apprendre. Voilà ce que l'Église veut connaître. Supplie Dieu pour les perdus avec action de grâce, parce que tu veux sauver les perdus. Supplie Dieu pour les malades avec action de grâce, parce que tu as donné ta vie et que dans tes meurtrissures nous sommes guéris. Et que tu as dit prier les uns pour les autres. Seigneur, apprends-nous les supplications avec action de grâce. Donne-nous d'être une église victorieuse. Et je termine cette prière, Seigneur, en te disant que ton Esprit Saint nous assiste, qu'il nous aide et qu'il nous fasse comprendre au plus grand nombre possible combien la prière est puissante et efficace et bouscule et indispose ce juge inique qui est notre adversaire. Seigneur, bénis-nous, bénis mes frères et sœurs, et bénis-les maintenant et pour la suite. Amen.